Jules Michelet. La sorcière. Chapitre 6. Le pacte. Il ne manquait que la victime. On savait que le présent le plus doux qu'on pût lui faire, c'était de la lui amener. Elle eût tendrement reconnu l'empressement de celui qui lui eût fait ce don d'amour, livrer ce triste corps sanglant. Mais la proie sentit le chasseur. Quelques minutes plus tard, elle aurait été enlevée, à jamais scellée sous la pierre. Elle se couvrit d'un haillon qui était dans l'étable, prit des ailes, en quelque sorte, et avant minuit se trouva à quelques lieues, loin des routes, sur une lande abandonnée qui n'était que chardons et ronces. C'était à la lisière d'un bois, où par une lune douteuse, elle put ramasser quelques glands qu'elle engloutit comme une bête. Des siècles avaient passé depuis la veille, elle était métamorphosée. La belle, la reine de village, n'était plus. Son âme changeait ses attitudes même. Elle était comme un sanglier sur ses glands, ou comme un singe, accroupi. Elle roulait des pensées nullement humaines, quand elle entend ou croit entendre un miaulement de chouette, puis un aigre éclat de rire. Elle a peur, mais c'est peut-être le jet moqueur qui contrefait toutes les voix. Ce sont ses tours ordinaires. L'éclat de rire recommence. D'où vient-il? Elle ne voit rien. On dirait qu'il sort d'un vieux chêne. Mais elle entend distinctement. « Ah, te voilà donc enfin! Tu n'es pas venu de bonne grâce !» Et tu ne serais pas venu si tu n'avais trouvé le fond de ta nécessité dernière. Il t'a fallu, l'orgueilleuse, faire la course sous le fouet, crier et demander grâce, moquer, perdue, sans asile, rejetée de ton mari. Où serais-tu si, le soir, je n'avais eu la charité de te faire voir l'inpaché qu'on te préparait dans la tour? C'est tard, bien tard, que tu me viens, et quand on t'a nommé la vieille. Jeune, tu ne m'as pas bien traitée. Moi, ton petit lutin d'alors, si empressé à te servir, à ton tour, si je veux de toi, de me servir et de me baiser les pieds. Tu fus mienne, dès ta naissance, par ta malice contenue, par ton charme diabolique. J'étais ton amant, ton mari. Le tien t'a fermé sa porte. Moi, je ne ferme pas la mienne. Je te reçois dans mes domaines, mes libres prairies, mes forêts. Qui gagnais-je? Est-ce que dès longtemps je ne t'ai pas à mon heure? Ne t'ai-je pas envahi, possédé, empli de ma flamme? J'ai changé, remplacé ton sang. Il n'est veine de ton corps où je ne circule pas. Tu ne peux pas savoir toi-même à quel point tu es mon épouse. Mais nos noces n'ont pas eu encore toutes les formalités. J'ai des mœurs, je me fais scrupule. Soyons un pour l'éternité. Mais sire, dans l'état où je suis, que dirais-je? Oh, j'ai senti, trop bien senti, que dès longtemps vous êtes toute ma destinée. Vous m'avez malicieusement caressée, comblée, enrichie, afin de me précipiter. Hier, quand le lévrier noir mordit ma pauvre nudité, sa dent brûlait, j'ai dit « c'est lui ». Le soir, quand cette hérodiade salie, effraya la table, quelqu'un était entremetteur pour compromis mon sang. « C'est vous ?»« Oui, mais c'est moi qui t'ai sauvé et qui t'ai fait venir ici. J'ai fait tout, tu l'as deviné. » Je t'ai perdu. Et pourquoi? C'est que je te veux sans partage. Franchement, ton mari m'ennuyait. Tu chicanais, tu marchandais. Tout autre sont mes procédés. Tout ou rien. Voilà pourquoi je t'ai un peu travaillé, discipliné, mis à point, mûri pour moi. Car telle est ma délicatesse. Je ne prends pas, comme on croit, tant d'âmes sottes qui se donneraient. Je veux des âmes élues, à un certain état friand de fureur et de désespoir. Tiens, je ne peux te le cacher. Tel que tu es aujourd'hui, tu me plais. Tu t'embellis fort. Tu es une âme désirable. Oh, qu'il y a longtemps que je t'aime. Mais aujourd'hui, j'ai faim de toi. Je ferai grandement les choses. Je ne suis pas de ces maris qui comptent avec leurs fiancées. Si tu ne voulais qu'être riche, cela serait à l'instant même. Si tu ne voulais qu'être reine, remplacer Jeanne de Navarre, quoi qu'on y tienne, on le ferait, et le roi n'y perdrait guère en orgueil, en méchanceté. Il est plus grand d'être ma femme, mais enfin, dis ce que tu veux. Mais sire, rien que de faire du mal. Charmante, charmante réponse, oh que j'ai raison de t'aimer. En effet, cela contient tout, toute la loi et tous les prophètes. Puisque tu as si bien choisi, il te sera par-dessus donné de surplus tout le reste. Tu auras tous mes secrets. Tu verras au fond de la terre, le monde viendra à toi et mettra l'or à tes pieds. Plus, voici le vrai diamant, mon épousée, que je te donne, la vengeance. Je te sais, friponne, je sais ton plus caché désir. Oh, que nos cœurs s'entendent là. C'est bien là que j'aurai de toi la possession définitive. Tu verras ton ennemi agenouillé devant toi, demandant grâce et priant, heureuse si tu la tenais quitte en faisant ce qu'elle te fit. Elle pleurera. Toi, gracieuse, tu diras « non » et la verras crier « mort et damnation ». Alors, j'en fais mon affaire. Mais sire, je suis votre servante. J'étais ingrate, c'est vrai, car vous m'avez comblée toujours. Je vous appartiens, ô mon maître, ô mon Dieu, je n'en veux plus d'autre. Suaves sont vos délices, votre service est très doux. » Là, elle tombe à quatre pattes, l'adore. Elle lui fait d'abord l'hommage dans les formes du temple qui symbolise l'abandon absolu de la volonté. Son maître, le prince du monde, le prince des vents, lui souffle à son tour comme un impétueux esprit. Elle reçoit à la fois les trois sacrements à rebours, baptême, prêtrise et mariage. Dans cette nouvelle église exactement l'envers de l'autre, toute chose doit se faire à l'envers. Soumise, patiente, elle endura la cruelle initiation, soutenue de ce mot « vengeance ». Bien loin que la foudre infernale l'épuisât, la fit languissante, elle se releva redoutable et les yeux étincelants. La lune, qui chastement s'était un moment voilée, eut peur en la revoyant. Épouvantablement gonflée de la vapeur infernale, de feu, de fureur et, chose nouvelle, de je ne sais quel désir, elle fut un moment énorme par cet excès de plénitude et d'une beauté horrible. Elle regarda tout autour, et la nature était changée. Les arbres avaient une langue, comptaient les choses passées. Les herbes étaient des simples, telles plantes qu'hier elle foulait comme du foin. C'était maintenant des personnes qui causaient de médecine. Elle s'éveilla le lendemain, en grande sécurité, loin, bien loin de ses ennemis. On l'avait cherchée, on n'avait trouvé que quelques lambeaux épars de la fatale robe verte. S'était elle, de désespoir, précipitée dans le torrent? Avait-elle été vivante, emportée par le démon? On ne savait. Des deux façons, elle était damnée à coup sûr. Grande consolation pour la dame de ne pas l'avoir trouvée. L'eût-on vue, on l'eût à peine reconnue, tellement elle était changée. Les yeux seuls restaient, non brillants, mais armés d'une très étrange et peu rassurante lueur. Elle-même avait peur de faire peur, elle ne les baissait pas. Elle regardait de côté, dans l'obliquité du rayon, elle en éludait l'effet. Brunie tout à coup, on eût dit qu'elle avait passé par la flamme. Mais ceux qui observaient mieux sentaient que cette flamme plutôt était en elle, qu'elle portait un impur et brûlant foyer. Le trait flamboyant dont Satan l'avait traversé lui restait, et comme à travers une lampe sinistre, lançait-elle reflet sauvage, pourtant d'un dangereux attrait. On reculait, mais on restait, et les sens étaient troublés. Elle se vit à l'entrée d'un de ces trous de troglodytes, comme on en trouve d'innombrables dans certaines collines du centre et de l'ouest. C'étaient les marches, alors sauvages, entre le pays de Merlin et le pays de Mélusine. Des landes à perte de vue témoignent encore des vieilles guerres et des éternels ravages, des terreurs qui empêchaient le pays de se repeupler. Là, le diable était chez lui. Des rares habitants, la plupart lui étaient fervents, dévots. Quelque attrait qu'eussent pour lui les âpres fourrés de Lorraine, les noires sapinières du Jura, les déserts salés de Burgos, ses préférences étaient peut-être pour nos marches de l'ouest. Ce n'était pas là seulement le berger visionnaire, la conjonction satanique de la chèvre et du chevrier, c'était une conjuration plus profonde avec la nature, une pénétration plus grande des remèdes et des poisons, des rapports mystérieux dont on n'a pas su le lien avec Tolède la savante, l'université diabolique. L'hiver commençait. Son souffle, qui déshabillait les arbres, avait entassé les feuilles, les branchettes de bois mort. Elle trouva cela tout près à l'entrée du triste abri. Par un bois et une lande d'un quart de lieue, on descendait à portée de quelques villages qu'avait créé un cours d'eau. « Voilà ton royaume, » lui dit la voix intérieure. « Mendiante aujourd'hui, demain tu régneras dans la contrée. »